Phnom Penh, 1,5 million d'habitants. Phnom Penh, qui demeure fidèle à l'Asie, bien sûr, mais qui s'est mise elle aussi, comme ses sœurs, à l'heure fonctionnelle. Mélange d'archaïsme et de modernisme, parfois savoureux, propre aux villes d'Asie.
Vertigo de 16h30 à 18h sur la première.
Bonjour Olivier Garrigue.
Bonjour.
Alors comment ça, alors effectivement petit problème de voix, mais ce n'est pas grave, on va quand même tenter de faire cette émission. Merci en tout cas d'être venu malgré votre état.
Ça me fait très plaisir, c'est pour ça que je voulais pas manquer l'occasion de venir.
Et écoutez, très bien. On va donc parler de ce roman Impasse Khmer qui fait suite à L'ogre du Salève.
Tout à fait.
Ce livre là, L'ogre du Salève, qui racontait une histoire d'un cannibale qui mangeait des jeunes filles
dans la région
genevoise. Absolument, et ce livre là a connu 4 réimpressions, donc c'était votre arrivée dans le monde du roman et de la littérature, une arrivée totalement fracassante, on peut le dire, c'était un succès.
Hein ? Oui, j'ai eu beaucoup de chance pour ce premier roman, et c'est vrai que le suivant, donc Un Basque-Mer, qui va paraître la semaine prochaine, est complètement différent, parce qu'il ne s'agit pas d'un roman policier, mais d'une histoire, vraiment de vie. Qui revient sur le passé aussi.
Ce livre-là, Impasse Khmer, se situe au Cambodge, on l'aura compris. Je précise aussi que vous serez l'invité d'Entre les Lignes avec toute votre voix.
J'espère.
Au milieu du mois de mars. C'est une sorte de carte du cœur de son auteur et de la société cambodgienne qui se superpose. Une femme qui décide, au fond, d'une certaine manière, de changer de vie suite à un chagrin amoureux, qui se retrouve au Cambodge et qui là va voir une autre civilisation, on peut le dire, une autre façon d'envisager la vie, avec des questions qui sont alors tout à fait les mêmes que l'on soit en Suisse ou que l'on soit au Cambodge, et puis quand même quelque chose dans sa vie qui va lui apporter un petit peu plus de peut-être de bonheur ou de réconfort. Mais au fond, c'est pas là le nœud de ce roman. Ce qui est important, c'est le pays, c'est ce choc cambodgien, c'est à la fois ses paysages, son histoire très très forte, celle des Khmers Rouges, évidemment, ses temples, les temples d'Angkor, le lac, le Tonlé Sap. Enfin, vous décrivez absolument tout cela avec beaucoup de précision dans le roman, puisque vous avez, vous, passé du temps au Cambodge pour Handicap International.
Tout à fait. Donc, j'étais pour 2 missions au Cambodge, et c'est à cette occasion que j'ai rencontré les Cambodgiens et que j'ai eu envie d'écrire sur ce pays qui m'a beaucoup touchée. Aussi bien pour la culture, mais aussi pour son évolution fracassante, en fait. C'est assez fort de voir comment un pays qui était vraiment sous l'influence européenne a réussi à s'en sortir aujourd'hui et qui a connu l'histoire qu'on lui connaît, donc avec les Khmers Rouges, et connaît aujourd'hui une évolution économique assez impressionnante, comme ses pays voisins, comme le Vietnam par exemple. Et cependant, même s'il y a cette évolution économique, ces pays gardent une âme très forte, des traditions qui sont ancrées, des croyances, c'est ce qui m'avait beaucoup touchée aussi. Et le passé, on le ressent très fort, même s'il ne s'exprime pas. Il a une grande influence sur la population.
Vous n'êtes pas la première personne qui, revenant du Cambodge, se trouve très frappée par ce qu'elle a vu, avec assez souvent les mêmes mots d'ailleurs de l'un à l'autre. J'ai le souvenir d'une interview avec le réalisateur français Patrice Lecomte, qui était allé voir son frère qui travaillait au Cambodge à l'époque et qui avait décidé d'y retourner pour faire un documentaire, tellement il avait été frappé par tout ce que dégage ce pays et, comme vous le disiez, en particulier ce passé extrêmement présent, le passé lointain, celui du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire les temples d'Angkor, et puis se passer très présent, la fin des années 70, le régime Khmer Rouge.
Tout à fait, et on le sent dans la population, comme elle vit au jour le jour, dans le sens où ils ne parlent jamais du passé. C'est très difficile de parler avec eux de ce qui s'est passé de 1975 à après. Et c'est quelque chose qui est en eux, et il y a une espèce de silence qui est très pesant, mais en même temps, qui est révélateur. Parce que d'un côté, il y a un silence, mais on ressent ce vécu. On sent une population qui a eu un passé, justement, grandiose, avec les tombes d'Angkor et une histoire vraiment tragique, une guerre fratricide, on peut dire ça comme ça. Et qu'aujourd'hui, ils arrivent à vivre ensemble quand même, mais avec ce poids du passé. Parce que quand on parle un peu avec les gens, quand ils s'ouvrent à nous, on découvre ce passé tragique.
Et un passé qui n'est toujours pas réglé, puisque les procès ont toujours cours.
Tout à fait, et je pense que ça ne sera jamais vraiment réglé. Ouais. Aujourd'hui, on voit vraiment des anciens Khmers rouges qui vivent côte à côte avec des soldats du régime royaliste, et qui se, quelque part, est-ce qu'ils se sont pardonnés ? On ne sait pas trop, mais ils vivent ensemble. Mmh. Et je pense que même de remuer le passé, il y a une certaine humilité aussi. Un besoin d'oublier ce passé.
C'est aussi une façon de voir la vie au quotidien, depuis très très longtemps, cette façon très bouddhiste de voir la vie.
C'est exactement là où je voulais en venir aussi, au niveau du karma. Donc on accepte en fait sa destinée. Voilà, si on a cette destinée-là, c'est qu'on...
On l'a mérité.
Donc quelque part, il faut vivre avec. Et ce n'est qu'en faisant des prières, en essayant de s'améliorer chaque jour, que ce karma peut éventuellement s'améliorer. Pour une vie future, ouais. S'il y en a.
S'il y en a une, effectivement. Pourquoi avoir voulu raconter l'histoire d'une occidentale débarquant au Cambodge, alors qu'au fond, vous auriez pu tout à fait vous contenter d'écrire un roman cambodgien, au plein sens du terme ?
Bon, c'est vraiment, moi je suis donc occidentale, et j'ai ma sensibilité d'occidentale, et j'avais envie justement de... puis j'ai pas vécu assez longtemps au Cambodge pour pouvoir vraiment... j'ai beaucoup parlé avec des gens, j'ai parlé avec des Cambodgiens, mais je m'estime pas... avoir assez de connaissances et du pays, sauf ce que j'ai lu, parce que j'ai beaucoup lu aussi après sur l'histoire, pour pouvoir vraiment écrire un vrai roman comme cambodgien, comme le frère Ritipan par exemple, que j'aime beaucoup et qui m'a vraiment ouvert les yeux.
Ritipan, qui est auteur, réalisateur cambodgien, qui a beaucoup écrit et tourné sur le génocide cambodgien.
Tout à fait.
Donc il fallait un personnage extérieur qui vous permette d'aborder toutes ces problématiques.
Et puis aussi justement d'amener une vision de la croyance ou peut-être de ce que nous, on considère comme le karma. Parce que souvent on emploie le karma, le nom du karma, un peu à
mauvais escient. Ouais.
Et je pense que si on réfléchisse un petit peu, on l'utiliserait pas comme ça.
Alors quel est le bon sens du karma ?
Je sais pas trop. En fait, j'ai pas réussi. Je pense qu'en fait, on est chacun maître de sa vie.
Ouais.
Et c'est un peu là aussi le message que je voulais faire passer. Parce qu'en se disant, voilà, j'ai mon karma qui est fichu, je peux rien faire. Mon
j'ai karma est même, voilà.
C'est le karma.
Voilà, c'est le karma.
Ça devait être comme ça.
Olivia Guérig est notre invitée. Nous parlons de l'impasse Khmer, roman qui se déroule, je le rappelle, au Cambodge et qui est publié aux éditions Encre Fraîche. Il y a beaucoup de musique dans votre livre.
Toujours,
effectivement, Olivia Guérig. Mais celle-ci, elle ne figure pas dans votre générique de fin, dans votre roman. C'est un extrait de la bande originale du film Un soir après la guerre. C'est cambodgien, écoutez.
ยุ่งยูสงันชอลพายพันคลันบอสบา
On ne va pas garantir la prononciation exacte du titre de cette chanson signée Ki Sakam, ça s'appelait Pros Keng Tev. C'est donc du cambodgien, vous l'aurez compris, extrait de la bande originale du film Un soir après la guerre, le film de Ritipan que nous avons évoqué tout à l'heure avec notre invité Olivia Guérig. Son roman s'intitule Impasse Khmer, il est édité aux éditions de Encre Fraîche, aux éditions Encre Fraîche, pas de Encre Fraîche. Si je parlais français, ce serait mieux. Et il succède à L'Ogre du Salève, qui était votre premier roman à succès, 4 réimpressions. Voici donc un Impasse Khmer qui se déroule au Cambodge. On a évoqué vos missions au Cambodge pour Handicap International, Olivier Guérig. Donc pour vous, la découverte de ce pays et ce choc qu'a représenté cette découverte. Est-ce que tout de suite sur place, vous avez eu l'idée d'amasser de l'information, entre guillemets, pour écrire un livre?
Non, mais j'écrivais tous les jours.
Parce que vous écrivez de toute façon tous
oui,
les jours.
C'est exact. Enfin, pas tout le temps, tous les jours. Mais là, il y avait tellement de choses qui arrivaient que je me suis dit, bon, il faut que j'écrive ce que je vois, ce que je ressens. Et en fait, c'est après, en rentrant, que ça m'est apparu comme une évidence qu'il fallait que je parle de ce ressenti. Et puis, j'avais moi-même beaucoup de choses à dire. Ce livre est un peu plus personnel aussi. Et voilà, donc ça s'est mis ensemble. Je pense que c'était aussi une façon d'exprimer ce que j'avais vu. Parce que je pense que quand on va au Cambodge, on n'en revient pas complètement...
identique.
Voilà, indemne non
ouais,
plus.
Ouais.
Et c'est vrai qu'à travers l'organisation pour laquelle je travaillais, j'ai rencontré des gens qui avaient énormément souffert de la guerre et aussi de ce qui suit la guerre. Donc des mines antipersonnelles et des restes explosifs de guerre. Et je devais recueillir des témoignages de ces personnes. Et c'est ça qui m'a frappée. Et j'avais besoin d'en parler, je pense.
Ouais.
Parce que c'est difficile de s'exprimer quand on... Sur le moment, on accumule beaucoup quand on est en mission. Et c'est vrai que le poids de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a vu, il ressort beaucoup de temps après. Je pense que les humanitaires le savent. Et... parfois, c'est difficile. Moi, j'écris. J'ai toujours écrit. Donc, c'était une manière pour moi de l'exprimer.
Dans votre roman, la narratrice part donc au Cambodge. Sa vie est complètement fracassée, déception amoureuse, seule dans une grande maison. Elle décide de partir et on va la suivre au contact des Cambodgiennes et des Cambodgiens qu'elle rencontre. Au quotidien, et cette fois-ci on est dans le présent, et vous faites sans cesse des allers-retours entre le présent et le passé pour qu'on comprenne mieux l'itinéraire des personnages et des Cambodgiennes et Cambodgiens qu'elle va rencontrer. Ceci pour poser un petit peu le contexte du roman. Est-ce que c'est selon vous un roman historique au sens où on l'entend habituellement?
Oui, on peut dire ça. En tout cas une partie des personnages, oui.
Avec toujours ce contraste entre cette modernité aujourd'hui affichée par le Cambodge, ces bars à tous les coins de rue, cette économie
florissante, construction,
et puis ce passé absolument invraisemblable, quoi. Les Khmers rouges qui ont tué, on estime à peu près 1 million de personnes, pour des raisons diverses et variées, souvent parce que les gens étaient considérés comme intellectuels parce qu'ils avaient des lunettes ou parce qu'ils avaient suivi des études, et qui voulaient créer un pays, état de paysans. C'était ça.
Inspiré de la révolution culturelle chinoise notamment. Parce que les dirigeants du régime, donc Salot Sar, Pol Pot, étaient partis étudier en France, donc faisaient quand même partie des érudits. Mais il fallait revenir à un peuple agraire. Donc des camps ont été créés, les villes ont été vidées pour créer ce pays, le Kampuchea démocratique, qui était une dictature terrible. Et tous les opposants étaient...
systématiquement éliminés.
Voilà. Ouais. Et le roi, qui allait un peu avant que l'insurrection se fasse et que, le Kampuchea démocratique soit instauré, est parti. Et avant ça, il était toujours un peu en deux eaux, dans le sens où le vent soufflait. Donc c'est, et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ça aussi dans la politique aujourd'hui au Cambodge. Ou Hun Sen, voilà.
Le premier ministre cambodgien.
Voilà. Fait des élections, mais l'opposition n'a pas n'a pas vraiment de voix.
Oui,
donc
oui.
Il y a bon, les Khmer Rouges sont partis, sont en passe d'être punis, mais il y a toujours quelque part une instabilité au niveau politique.
À l'époque où les Khmer Rouges installent leur régime au Cambodge, la guerre du Vietnam n'est pas terminée. Ce sont les Vietnamiens qui, plus tard, en envahissant le Cambodge, mettront fin à ce régime terrible. Et c'est vraiment, effectivement, une période d'incertitude totale pour toute la région, c'est-à-dire pour le Vietnam, le Laos ou encore le Cambodge. Et on retrouve effectivement les traces de cette histoire dans votre roman, qui commence par des booms. Ça commence par des boum, 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 et je n'en dis pas plus, et ça se finit par des soupirs. Je trouvais ça assez étonnant. Pourtant, ça finit quand même malgré tout sur une note positive.
Oui. ma façon positive de voir les choses, je pense. Un certain optimisme que j'espère garder.
Ouais.
Bon, il y a des soupirs qui peuvent être des soupirs de peine aussi.
Oui, absolument, absolument. C'est un livre qui fourmille de détails et on sent bien que vous avez passé beaucoup de temps dans les rues de Phnom Penh, la capitale cambodgienne. Et je le disais tout à l'heure, je vous posais la question de savoir si vous aviez déjà sur place l'idée d'écrire ce roman-là. Ça veut dire aussi que vous avez toujours votre carnet avec vous, que vous notez tout le temps.
Tout à fait. Quand j'ai pas mon ordinateur, là je l'avais pas. Donc j'avais mon petit carnet et je notais. Et j'avais aussi un blog que j'alimentais avec des récits de voyage. Pendant ma mission aussi au Laos, j'ai écrit les chemins que je parcourais. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Et peut-être qu'un jour, je ferai un vrai roman de voyage, qui sait.
Qu'est-ce qui vous a touché le plus au Cambodge?
Les gens, je pense vraiment, c'est ça. Le caractère... leur façon, leur humilité, leur résilience par rapport au passé aussi. Car ils sont, malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils sont aimables et gentils. Et c'est le chaos, et j'aime. En fait, cette vie, c'est vivant. Et...
Vous décrivez le chaos de Phnom Penh, et puis ce côté incroyablement paisible des campagnes.
C'est ça. C'est ce que j'ai vraiment ressenti en promenant sur place.
Alors, il y a évidemment l'idée d'écrire ce roman, la fiction, la réalité qui parfois se mélangent. Est-ce que vous avez eu parfois, je ne dis pas la tentation, mais peut-être la pudeur de ne pas dire certaines choses que vous ressentiez ou certaines choses très personnelles que vous ne vouliez pas mettre dans le roman? Ou est-ce qu'au contraire, tout ce qui est dit dans le roman et qu'on suppose être biographique est vrai?
Non, il y a des choses que je n'ai pas dites.
Ouais.
Voilà. Donc, il y a une partie réelle. Les gens qui me connaissent bien trouveront. Et il y a une partie qui est fiction. En ce qui concerne les parties qui peuvent m'être rapprochées, c'est quand même une fiction.
Ça reste une fiction. Ouais. Ce roman s'appelle Impasse Khmer, publié aux éditions Encre Fraîche, signé Olivia Guérig, notre invitée.
Vertigo, Pierre-Philippe Kader.
On parlera de l'artiste allemand Anselm Kiefer tout à l'heure en compagnie d'Anouk Mertz. Vous verrez qu'on pourra peut-être sans doute tisser des liens avec l'histoire du Cambodge. La bande-son de ce livre, vous l'avez écrit en musique, Olivia Guérig, parce qu'à la fin de celui-ci, on trouve quelques pages dans lesquelles on a des extraits de chansons. Alors ça va de Simon & Garfunkel au Cure, en passant par John Lennon, Instant Karma, évidemment, puisqu'il y a évidemment beaucoup question de karma dans ce livre, mais aussi Bachung, Pink Floyd, Arcade Fire. Alors, tout n'est pas très joyeux.
Non.
Il n'y a pas Patrick Sébastien, par exemple. C'est marrant, ça.
J'ai un peu de mal avec Patrick Sébastien, mais ça, c'est personnel. Je ne juge pas.
Ne jetons pas la pierre.
Voilà.
Exactement.
Mais oui, donc, j'écris souvent en musique. Je suis une grande fan de musique de toutes sortes. Et pour moi, l'écriture ne se fait pas sans musique. Et j'avais envie, justement, d'illustrer chaque chapitre par une chanson qui m'a particulièrement, qui représente particulièrement le contenu, en fait, du chapitre ouais. en question.
Alors, ça commence avec Simon & Garfunkel. Voilà. Donc là, on est plutôt dans la fin des années 60, puisque c'est le Sound of Silence, le fameux album emblématique de Simon & Garfunkel. Et puis, comme je l'ai dit, il y a Instant Karma, il y a d'autres choses, et beaucoup de rock anglais très sombre, finalement, entre Joy Division, les Cure, qui d'autres encore, je les ai plus vraiment en tête, Dead Can Dance, Radiohead, Depeche Mode, Nine Inch Nails, ouais, par exemple. C'est un petit peu plus dur, Nine Inch Nails.
Quand même.
Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette noirceur-là ?
Je pense que c'est une façon d'exprimer des choses comme moi j'essaye de le faire par mon art. Donc il y a des sentiments souvent qu'on met sous silence qui ressortent de façon assez forte par la musique. Et c'est ce que j'essaye de faire passer aussi.
L'écriture, c'est votre musique à vous ?
C'est ça. Mmh.
C'est celle qui vous permet d'exprimer. Ouais, ce que vous ne pouvez pas faire.
Parfois la noirceur, parfois il y a des choses plus douces et plus légères. Ouais. Pardon. Mais c'est souvent quand même des choses puissantes. Dans la chanson Sound of Silence, on retrouve justement ce paradoxe d'un bruit criant, en fait. Ouais. Dans le silence, dans la vie des Cambodgiens, il y a ce cri qui reste d'un passé tragique.
C'est un cri qu'on n'entend pas, mais qui voilà, est là. Quoi. C'est cet oxymore fameux, enfin voilà, ouais, ce silence assourdissant.
Voilà.
Je cherchais l'expression exacte.
Et je pense que ces groupes-là, par leur écriture aussi,
ouais,
partagent certaines choses que je partage aussi. Donc c'est pour ça que je les aime, ouais, et je les écoute.
Alors. Vous nous proposez effectivement une bande son pour ce livre-là, mais ça veut dire que lorsque vous écrivez, je vais reprendre la question autrement, c'est l'histoire de le fait de la poule au fond. Est-ce qu'il y a la chanson qui induit le climat du chapitre que vous êtes en train d'écrire, ou alors est-ce que c'est le hasard du moment qui fait que vous êtes en train d'écrire et vous écoutez cette chanson-là ?
Non, souvent j'écoute les mêmes musiques en écrivant. C'est souvent les mêmes groupes, donc je pense que l'ambiance de la musique a une influence sur moi.
C'est comme un rituel, en fait. Vous avez besoin de cette musique-là pour écrire ?
Ouais. Tout à fait.
Ouais. On va maintenant, si vous voulez bien, se tourner vers un artiste majeur, on peut le dire, puisqu'il s'agit de Anselm Kiefer. Je vois Michel Masseret qui hoche la tête.
Oui, certes.
Certes.
Kiefer, il me l'a dit tout
exactement,
à l'heure.
Exactement, je
Kiefer. Pas mal. Anselm Kiefer. Et c'est Anouk Mertz qui va nous en parler.
Vertigo. Art visuel.
Je ne suis pas neutre. Je suis parfois... c'est la nausée que je fais. J'aime pas ce que je fais parfois. Oui, je suis en guerre avec mon tableau. Je suis en guerre dans ma tête, souvent.
La voix dans le thème Kiefer, immense artiste de l'art contemporain, superstar, on peut le dire, allemand d'origine, qui vit en France, et jusqu'au 18 avril, le Centre Pompidou à Paris présente la carrière de ce géant de l'art contemporain, 150 œuvres, une soixantaine de peintures, pour la plupart des œuvres gigantesques, des vitrines spectaculaires et une installation monumentale, une exposition que vous avez visitée pour nous, Anouk Mertz.
Oui, c'est dire si l'œuvre de Kiefer est énorme dans sa signification, dans son message, dans son nombre, dans sa taille et dans les matières utilisées, aussi dans les épaisseurs des tableaux, on en parlera tout à l'heure. Et l'exposition, eh bien, elle est grande aussi. Alors, je vais malheureusement pas pouvoir vous parler de tout. Sans ça, je vous prendrai le reste de l'heure. Je vais donc
peut-être arranger notre invité.
Oui, voilà. C'est vrai, j'ai encore de la voix. Je vais peut-être privilégier ce qui m'a le plus touché, ce qui est le plus fort aussi, peut-être pour la plupart des gens, c'est-à-dire les immenses toiles de la période années 70, années 80, la période où l'histoire avec un grand H le torture, le fait même d'être allemand, le hante et ça jusqu'à la fin, quoi, encore aujourd'hui, puisqu'il continue à être très prolixe. Alors, pour bien saisir la portée de ses œuvres et l'émotion qu'on ressent face à ses peintures, je vous propose de revenir un peu en arrière au 8 mars 1945, date de naissance d'Anselm Kiefer au bord du Rhin. Vous l'avez compris, il voit le jour pendant la Seconde Guerre mondiale, au milieu des ruines. L'histoire entre donc d'emblée dans son travail et va jamais cesser de l'accompagner au fil de son évolution.
On peut dire aussi, à nous, que c'est un phénomène assez remarquable et continue dans cette génération-là, née à la fin de la guerre ou pendant la guerre, qui demande aussi des comptes aux parents et à l'histoire et qui refuse d'oublier.
Absolument, cette génération veut savoir ce qu'il s'est passé, elle ne se contente absolument pas des procès de Nuremberg, c'est tirer un trait trop facile sur cette dénazification. Et pour Anselm Kiefer, le plus important, ce qui prime, c'est le devoir de mémoire.
Et ça depuis ses débuts.
Absolument, et c'est avec cette période que débute au fond l'exposition. Dès 1969, alors qu'il prépare son diplôme de la Kunstakademie, il va se photographier en portant l'uniforme de la Wehrmacht de son père, donc manteau et bottes gris vert. Il se met dans différents lieux géographiques et fait le salut nazi, et ça de manière très répétitive. À partir de là, il va peindre des toiles, déjà assez grandes. Il utilise l'aquarelle, un trait parfois maladroit, mais il faut le dire, très efficace. Alors cette série, vous l'imaginez, choque énormément l'Allemagne. Il l'appelle occupation. Alors elle choque d'une part parce que l'Allemagne ne voulait plus entendre parler de ce passé, et puis d'autre part, eh bien, parce qu'elle la voit comme une apologie même de ce qu'on avait voulu oublier. Mais pour Kiefer, c'est tout autre chose. Au contraire, il s'agit d'un processus proprement cathartique.
Oui, pour se défaire de cette culpabilité qu'il ressent en permanence.
Oui, et il va, durant près de 30 ans, établir un inventaire des mythes fondateurs du nazisme.
Et puis alors, énorme partie de cette exposition, ce sont les ruines, les fameuses ruines.
La force des ruines, oui, quelle émotion dans l'immense salle intitulée « Valeur des ruines ». Imaginez 6 toiles de 3 mètres sur 4, à peu près, elles sont peut-être même un peu plus grandes, chacune de 30 à 40 cm d'épaisseur, parce qu'il y met beaucoup de matière, du plomb, de la paille, etc., dans les tons noirs, ocre, doré, qui va représenter eh bien, les ruines du Reich. Il fallait, bien entendu, l'espace du centre Pompidou, le 6e étage, pour les mettre en valeur. Alors, selon Jean-Michel Bourg, conservateur au centre Pompidou et commissaire de l'exposition Anselm Kiefer, c'est pas un hasard si en regardant ces toiles, on a une impression de photographie.
Il travaille sur des lieux qui étaient des lieux symboliques du pouvoir nazi, qui pour la plupart ont été détruits au moment de la guerre, à la fin de la guerre. Donc autrement dit, ce sont des lieux qui n'existent plus. Et leur absence, évidemment, est problématique par rapport à la question même de la mémoire. C'est-à-dire pour cette génération, pour tenter de travailler sur cette question, pour essayer de comprendre... Quand il y a des traces, c'est évidemment plus facile que quand les traces ont disparu. Donc il y a aussi cette problématique-là qui rentre en jeu.
Quel type de bâtiment, par exemple ?
Alors, on a juste en face de nous la représentation de la grande salle qui était la chancellerie allemande du Reich, où était Hitler lui-même. Donc, c'était un bâtiment d'inspiration néoclassique, avec des grandes colonnes, très grandes pareilles pipettes, très haut de plafond, une verrière, comme vous voyez, au-dessus. Ce bâtiment a évidemment totalement été détruit, donc Anselm Kiefer a travaillé à partir d'une photographie. Il y a travaillé, non pas d'un point de vue hyper réaliste, puisqu'en fait il a interprété finalement ce qu'aurait été la ruine de ce bâtiment s'il n'y avait pas eu la guerre, ce qu'il serait devenu peut-être au bout de 300 ans, 500 ans ou 1000 ans.
En vieillissant normalement.
En vieillissant, puisqu'en fait le concepteur même de ces bâtiments, qui était Albert Speer, qui était l'architecte, celui qui est le plus l'oreille de Hitler, Albert Speer voulait construire les ruines du futur, c'est-à-dire qu'il voulait intégrer la question même de la ruine, de ce que seraient les ruines et de comment, dans un futur plus ou moins lointain, quelle image auraient les générations futures de la puissance du régime national-socialiste. Il montre sa vision de la ruine, évidemment une vision totalement fantasmatique puisque les bâtiments ont été totalement détruits, et il le fait d'une manière extrêmement littérale puisqu'il va travailler la ruine picturalement d'une certaine manière, c'est-à-dire que les tableaux sont faits de pièces qui sont collées, on a rapiécé le tableau comme on rapiécerait un vieux pantalon, il y a des trous dans le tableau, il y a des éléments, il y a de la paille, donc on est dans quelque chose qui représente une instabilité qui lui-même est une chose instable.
Comment ce travail est perçu, reçu par les visiteurs à nous ?
Vous parliez tout à l'heure du silence rugissant, c'est un peu ce que j'ai ressenti. C'est vrai, l'atmosphère est solennelle, il n'y a pas un bruit, mais en même temps, on explose de l'intérieur, quoi. On est bouleversé. J'ai même remarqué chez certains des visiteurs qui étaient par là, des larmes au coin des yeux. Il faut dire que ces toiles conservent leur force aujourd'hui, peut-être encore plus dans un contexte politique où les nations tendent à se replier sur elles-mêmes, où les discours populistes résonnent pour certains comme une valeur valeur refuge. Alors n'oublions pas, regardons en face l'histoire, ce qu'il s'est passé.
Anselme Kiefer, c'est à voir au Centre Pompidou. Cette immense rétrospective se tient à Paris, donc jusqu'au 18 avril. Ce qui nous amène, Olivia Guérig, au fond au Cambodge, c'est la même chose, ce qui s'est passé au Cambodge, entre, si on fait un parallèle rapide et osé entre le nazisme et le régime Khmer Rouge. Au fond, il y avait, bon, évidemment quelques différences, mais ce qui s'est passé, le résultat est le même, des gens qui sortent très traumatisés, effectivement, de toute cette période. Est-ce que vous avez senti qu'au Cambodge, il y avait, est-ce que vous avez senti au Cambodge un travail peut-être chez les artistes ou un besoin d'exprimer quelque chose au travers des arts pour passer un cap, justement?
Bon, certains artistes comme Ritipan, justement, qui publient des choses, mais j'ai l'impression que ça reste vraiment marginal. Je crois qu'il y a plutôt une façon d'oublier. Et je crois que l'Allemagne est peut-être la seule des nations qui fait ce travail vraiment depuis la fin de la guerre de montrer, de justement, c'est un travail de dire voilà ce qu'on a fait. Et il y a une certaine culpabilité aussi par rapport à ça, qu'on peut voir, je pense, ça m'intéresserait beaucoup de voir, parce que je suis à moitié allemande, donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait aussi à l'école, je pense, depuis la fin de la guerre. Et je crois que l'Allemagne fait un travail qui est incomparable par rapport aux autres pays, par rapport à ça.
Est-ce que, en famille, vous en parliez de cette histoire-là, avec
oui,
votre
bien
père
sûr. Ouais. C'est ma maman, en fait, qui était enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est des images qui l'ont énormément choquée et qu'elle garde. Elle était dans les bombes, mais d'un côté, du mauvais côté. Ouais. Donc elle avait les aspects de la guerre, d'autres aspects dont on parle moins par rapport aux Allemands. Mais il y a cette culpabilité, est-ce qu'on aurait fait autrement? Et c'est pas facile. J'ai essayé de parler aussi avec mes grands-parents. Mais il y a quand même, chez cette génération-là qui a fait la guerre, un silence. Une honte, vraiment, je pense.
Que peuvent les artistes raconter, que peuvent-ils raconter de plus, exprimer ce que l'histoire finalement ne raconte pas? L'histoire, ce sont les faits, et puis il y a le vécu, et ça c'est encore autre chose. Les artistes sont là pour exprimer justement le vécu qu'on n'a pas dans les livres d'histoire.
Justement, je pense que le travail que M. Kiefer fait est une bonne chose, parce que beaucoup n'oseront pas l'exprimer. C'est un moyen d'expression, cet art contemporain, une façon de montrer les choses d'une manière personnelle. Oui, je pense que c'est un bon véhicule d'expression.
Là, on parle du Cambodge aussi avec vous. Il y a des statistiques assez effarantes sur le Cambodge, pays meurtri, on le sait bien. Maintenant, je crois qu'il y a moins de 10 psychiatres pour tout le Cambodge, alors qu'un tiers de la population souffre de troubles du comportement. Là aussi, il y a...
Parce que c'est pas admis, quelque part, je pense. C'était aussi une des choses à laquelle j'ai pensé. C'est qu'ici, à mon avis, il y a une personne sur 10 qui va voir un psychiatre.
Voire plus, à mon avis. Mais...
je me demandais quelle était justement la proportion. Ouais. Et là-bas, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas ancré dans les mœurs, aussi en raison des croyances. Je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont même pas le temps de penser. Le traumatisme est là. Parfois, il est lié au karma. Donc, c'est qu'ils ont mérité, en fait, de souffrir. Parfois, c'est simplement que bon, maintenant, il faut continuer de vivre. Parce qu'il y a quand même
une urgence du quotidien aussi qui fait que voilà, on n'est pas dans ces problématiques.
On n'a pas la même problématique.
Ouais, bien sûr.
Ouais. Je pense que la plupart des Cambodgiens n'ont pas le temps de passer une heure en psychanalyse. Ouais. Même si parfois c'est quelque chose qui, pour surmonter un traumatisme, serait très nécessaire et bénéfique.
Dans votre roman, l'héroïne fréquente les villes comme Phnom Penh, la capitale, bruyante, animée, exubérante, se rend aussi dans d'autres villes de moindre importance comme Kampong Cham ou encore d'autres villes encore plus petites et des villages. Et on sent bien à chaque fois que autant il y a de la vie, de l'exubérance dans cette grande ville qui est Phnom Penh, et plus on s'en éloigne et plus on va dans les campagnes, plus on sent qu'il y a quelque chose qui se referme et que la parole aussi se ferme de plus en plus dans le roman. Ça, vous l'aviez vraiment vécu là-bas?
Oui, tout à fait. Donc nous, on était avec des interprètes, donc mon équipe et moi-même. Donc on ne sait pas si ce qu'on nous dit est vraiment ce qui est dit. mais on voyait quand même le sourire. Donc il y avait une envie de partage. Mais c'est quand même très très resté très traditionnaliste dans les campagnes, alors que la jeunesse, elle vit comme elle aimerait vivre, comme en Occident.
Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes lancé, Olivier Guéric, dans des études de psychocriminologie? Est-ce que c'était parce que vous saviez que vous alliez au Cambodge? C'était avant? C'était après? Racontez-nous.
Non, en fait, c'était parce que au tout départ, je voulais écrire des romans policiers.
Donc vous êtes fan absolu.
C'est pour ça l'ogre,
l'ogre du Salève.
Et donc, j'ai fait des études de criminologie par correspondance. Et c'était vraiment pour écrire. Et bon, moi, c'est vrai que les aspects psychologiques m'intéressent beaucoup parce que ça a trait à l'être humain. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre certaines choses. Je pense que je les comprendrai peut-être jamais, mais voilà, c'était vraiment un aspect qui m'a toujours tenu. Et voilà.
Et ça vous a aidé pour l'écriture des romans?
Surtout pour le roman policier,
ouais. Oui. Pour l'ogre du Salève.
Tout à fait. Ouais. Et le suivant.
Et suivant. À venir, pour dire. Qui est en cours. Exactement. Vous pouvez tousser si vous voulez.
Non, ça va.
Votre roman, je le rappelle, s'intitule Impasse Khmer. Il est publié aux éditions Encre Fraîche. Il va sortir très bientôt. Je signale également que vous serez l'invité de l'émission Entre les Lignes sur Espace 2. Ce sera à la mi-mars, je crois, le 14 ou le 15 mars.
Oui, le 15.
Le 15, voilà. Le 15 mars. Vous le savez mieux que Jean-Marie Félix qui présente l'émission. Qui me dit, oui, je crois, dans 10-12 jours. Je ne sais plus. Non, je me moque de lui, mais c'est pas vrai. Il avait un petit doute sur la date, mais enfin, voilà, maintenant le doute est levé, vous aurez retrouvé votre voix d'ici là,
oui.
Donc évidemment j'imagine que c'est un petit peu mieux pour vous. L'écriture, on l'a dit tout à l'heure, l'écriture c'est quelque chose que vous pratiquez depuis toujours, depuis toute petite,
oui.
Vous aviez toujours eu envie d'écrire un roman. Alors, avoir envie d'écrire un roman, c'est une chose, une fois qu'il est fait, qu'est-ce qui fait qu'on en écrit un deuxième?
C'est simplement qu'on est... Alors, pour moi c'était un rêve qui s'est réalisé quand il a été publié, en fait, le premier. Et je me suis dit, ben, si je suis capable d'en faire un, maintenant j'ai la force de le faire, le deuxième. Et voilà, donc j'avais une confiance dans l'écriture et j'avais envie de continuer. Parce que j'aime toujours raconter des histoires et j'aime partager des choses avec mes lecteurs. Ouais. Donc je pense que c'était vraiment ça qui me donne envie de continuer.
Comment avez-vous vécu le succès de L'Ogre du Salève? Votre premier livre, réimprimé 4 fois.
Je réalise toujours pas vraiment l'ampleur du succès. Dans le sens où je suis vraiment heureuse, j'ai d'énormes retours de lecteurs. Et pour moi, c'est assez impressionnant parce que je m'y attendais pas du tout. Donc je sais pas encore si je réalise vraiment l'ampleur du succès. Je suis encore dans la phase, ah oui. Les gens, ils ont aimé mon livre, ouais. Donc, mon histoire. Cette histoire les a interpellés, intéressés. J'ai réussi à partager quelque chose.
Et c'est un livre qui est sorti l'an passé. Donc, vous avez très vite publié le deuxième.
Oui.
Impasse Khmer.
Bon, c'est vrai que l'Ogre du Salève a été écrit un peu avant.
Ouais.
Voilà. Après, il y a tout le travail de, surtout pour un premier roman, il y a un grand travail de relecture.
D'édition, de relecture, voilà, évidemment. Olivier Guéric, merci d'être venu nous voir, malgré
merci
votre voix.
Je suis navrée, j'espère que vous auriez compris un petit peu.
Je crois.
Merci en tout cas.
Merci d'être venu nous voir. Impasse Khmer est publié aux éditions Encre Fraîche, il sort très bientôt. Et donc vous serez dans Entre les Lignes sur Espace 2 le 15 mars, en compagnie de Jean-Marie Félix, c'est à 11h sur Espace 2. Merci beaucoup, à
merci
bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Il figure sur la bande-son de votre livre. Ce groupe-là, ce n'est pas la bonne chanson, mais c'est Joy Division quand même. Hein, c'est bien.
D'accord.